des livres plein les oreilles. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Clotilde Saye au micro de cette émission qui, je vous le disais la semaine dernière, en est quand même, malgré tout, bon an mal an, à sa 10e édition. Et là 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 là, ça en fait du livre audio et des extraits à vous faire entendre. Cette semaine, une nouveauté très attendue pour commencer cette émission, celle de la comédienne humoriste, autrice québécoise Marie-Christine Chartier, un livre qui figure parmi les meilleurs vendeurs de cette rentrée littéraire au Québec et un livre en audio, s'il vous plaît, lu par l'autrice, édité chez Bulldog. C'est avec ça que nous allons ouvrir l'émission. Ensuite, un petit topo sur la situation, on va dire un petit peu difficile, on va le dire comme ça, du livre audio au Québec, qui nous redonnera l'occasion d'entendre la voix d'Hélène Dorion lisant son propre livre, sa propre poésie même, pas même le bruit d'un fleuve. Gros succès sur papier, mais en audio. À suivre. En vrac, il y aura aussi au chapitre des nouveautés le Comte de Monte-Cristo, puisque le film est à l'affiche, 9 histoires à glacer le sang et Peter Pan, comme on dit en France, Peter Pan, comme on dit ici, relecture de l'œuvre dont on peut entendre pas mal de versions, ma foi. Ah oui, aussi, faut-il craindre que certains livres audio déconcentrent le conducteur d'une voiture ? Très sérieusement, il y a des gens en Angleterre qui se sont penchés sur la question et qui ont répertorié une dizaine de titres absolument indésirables à écouter en voiture. Beaucoup n'existent qu'en anglais, mais j'en ai quand même trouvé 2 au milieu de tout cela en français. Et on finira avec 2 nouveautés qui nous viennent de France, signées Mélissa D'Acosta et Carole Martinez. Et c'est parti. Mais pour l'instant, nous sommes au Québec, alors restons-y avec Marie-Christine Chartier. Qui est Marie-Christine Chartier? Peut-être que son nom vous sonne une petite cloche, mais vous vous dites « oui, il me semblait que je connaissais ce nom-là, pas en tant qu'autrice ou même comédienne ou même script ou même… Ah oui, mais oui, bien sûr, et c'est une ancienne athlète de haut niveau en tennis, Marie-Christine Chartier. Je ne sais plus dans quelles années, mais elle est quand même assez jeune encore. Et elle a vécu 6 ans aux États-Unis avant d'obtenir une bourse d'études pour étudier à l'université, enfin pour obtenir une bourse d'études à l'université d'État de l'Iowa. De retour au Québec, elle a entamé un doctorat en psychopédagogie à l'université Laval. Sa thèse porte sur les femmes en situation de leadership dans le domaine sportif. Et parallèlement à ses études, elle se passionne pour l'écriture. Elle a écrit 5 ou 6 bouquins. Le premier, c'était l'allégorie détruite arc-en-ciel. Celui-ci s'appelle Le garçon d'encre, donc de Marie-Christine Chartier, lu par elle-même au studio Bulldog. L'histoire, rapidement, à la mort de son père, elle doit, Maxine, aller, c'est le nom de son héroïne, elle doit assister aux funérailles. C'est à contre-cœur que la jeune femme retourne dans son village natal et la maison de son enfance, lieu tant redouté qu'elle a fui 6 ans plus tôt pour cause de deuil. Tiens, on va dire ça comme ça. Et ensuite, eh bien, il y a une surprise qui l'attend chez le notaire lorsqu'elle apprend que son père a modifié son testament peu avant sa mort et que pour toucher son héritage, elle va devoir accepter une condition insolite qui est celle, eh bien, je ne vous le dirai pas. Mais ça va l'irriter beaucoup, beaucoup, beaucoup. La presse a dit que ce 7e roman de Marie-Christine Chartier, qui a vendu plus de 100 000 exemplaires de ses livres précédents, continue d'explorer les relations humaines. On a dit que c'est un roman touchant sur le deuil dans l'actualité, écrit avec beaucoup de délicatesse, et c'est vrai. Et c'est lu d'ailleurs aussi avec beaucoup de délicatesse. Je vous laisse le soin de vous faire une opinion vous-même.
Chapitre 7. 7 ans plus tôt. Le diner est vide, les chaises montées sur les tables. Le cuisinier et l'autre serveuse sont partis depuis longtemps, tout comme France, la propriétaire. Il n'y a plus que moi et Janie, ma meilleure amie, qui travaille comme serveuse au resto de sa mère. On est assises côte à côte sur la banquette de faux cuir usé. Devant moi, un milkshake fondu, un burger pas entamé. Je sais que France ne me chicanera pas pour le gaspillage de nourriture, même si elle déteste ça. Je crois qu'elle me donnerait tous les burgers à gaspiller du monde si ça pouvait me réconforter. J'ai l'impression d'avoir été enterrée vivante, qu'une partie de moi est restée accrochée à ma mère quand ils l'ont descendue en terre et que, depuis, j'ai beau hurler jour et nuit pour qu'on vienne me libérer, personne ne m'entend. J'ai déjà lu dans un livre d'histoire que durant la guerre de sécession aux États-Unis, on enterrait le monde avec une corde qui reliait leur cercueil à une clochette. À cette époque, il y avait tellement de décès qu'on enterrait vite les gens, alors que certains étaient peut-être encore vivants. Ces derniers pouvaient sonner la clochette pour qu'on vienne les déterrer. C'est comme ça que je me sens. Je m'agite dans le noir, je racle le bois de mon cercueil avec mes ongles, je cherche la corde qui déclenche la clochette pour constater qu'il n'y a ni corde ni clochette et que je vais manquer d'air graduellement, glisser vers l'inconscience, seule, oubliée. Je vais avoir le temps de voir venir ma mort. C'est ce qui m'habite le plus depuis que ma mère est décédée. L'idée qu'elle l'a vue venir, cette mort, qu'elle l'a choisie même, qu'elle l'a regardée bien en face. La thérapeute de l'école m'a dit que je ne devais pas le voir de cette façon-là. Elle me lâche des phrases du genre « Tu sais, c'est pas ta faute, Maxine, ta mère était dépressive. » Comme si elle la connaissait mieux que moi, comme si elle savait, elle, l'étendue de la maladie qui a grugé le cerveau de ma mère, qui l'a laissée vide et triste. Oui, en dépit des périodes où elle était joyeuse et vaquait à ses occupations, au fond d'elle, ma mère était triste. Une tristesse qui envahissait chacune de ses cellules. Le cellulaire de Janie n'arrête pas de vibrer. Elle le prend et le met sur silencieux. Je marmonne. « Tu peux y aller si tu veux. Ton chum doit t'attendre. » Elle passe son bras autour de moi et sa chaleur me fait du bien, m'ancre à la vie. J'ai froid, alors je l'absorbe autant que je peux. Elle me la donne sans compter. Elle me murmure à l'oreille. Il peut attendre encore. Je n'ai plus de larmes, mais je pleure quand même. Un désert de désespoir sans fin.
Ça s'appelle « Le garçon d'encre ». Ça a été écrit et lu à l'instant par Marie-Christine Chartier. Ça a été édité dans sa version audio par le studio Bulldog. Puisque nous sommes dans le studio Bulldog et puisque nous parlons de livres audio faits au Québec, vous avez sans doute remarqué, il y en a beaucoup plus dont je parle faits en Europe qu'ici. Et la raison en est simple, c'est qu'ici, il y en a de moins en moins. Le marché du livre audio est freiné dans son développement au Québec. C'est un article de Frédéric Lacroix-Couture pour la presse canadienne qui écrit que notre milieu, notre domaine en ébullition depuis quelques années, eh bien, se voit freiné dans son élan. Les lecteurs d'ici sont de plus en plus au rendez-vous. Pourtant, ce n'est pas la raison pour laquelle la production de livres audio ralentit. Ce qui l'a fait ralentir, c'est que le financement et la rentabilité font défaut. Alors évidemment, ça rend la production un peu moins attrayante pour plusieurs maisons d'édition. Autrement dit, ça leur coûte cher et ils ne sont même pas remboursés, quoi. Il y a des statistiques qui montrent que ce format qui consiste en l'interprétation, vous le savez, d'une œuvre écrite par un ou plusieurs lecteurs, narrateurs, gagne en popularité au Québec, comme d'ailleurs ailleurs sur la planète. Au sein du réseau des bibliothèques publiques, par exemple, les prêts de livres audio ont connu une augmentation constante depuis 2019, passant de 2000 à environ, tenez-vous bien, 250 000 en 2023 sur la plateforme. C'est énorme. D'ailleurs, c'est confirmé par toutes les maisons de production et de distribution, dont la société De Marque, qui fait état d'une croissance des revenus de près de 150% pour le livre audio de 2020 à 2023. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que depuis l'an dernier, on a perdu une subvention qui nous arrivait de Patrimoine Canada et ça a été coupé pour les maisons. C'était pas une subvention pour les studios, c'était une subvention qui était destinée aux éditeurs, donc qui leur permettait d'avoir l'argent suffisant pour pouvoir sortir le bouquin en livre audio. Par exemple, les éditions Alto, je vous en ai souvent présenté des livres chez Alto, je ne vous en présente plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont complètement cessé pour le moment l'expérience du format audio. Ils ont réalisé une douzaine de productions et le président fondateur et directeur de l'édition, Antoine Tanguay, nous dit qu'à ce jour, je suis à des kilomètres et des kilomètres de la rentabilité. Il donne un exemple, pas même Le bruit d'un fleuve d'Hélène Dorion, un roman qui s'est vendu à plusieurs milliers d'exemplaires à sa sortie, alors que le format audio paru plus tard, lu par Hélène Dorion, a été vendu 84 fois. Ça fait mal. Et quel dommage, j'ai eu envie, qu'on réécoute un extrait de « Pas même le bruit d'un fleuve », édité par Alto et lu par l'autrice, la poétesse Hélène Dorion.
Lorsqu'elle a lu son histoire dans les mots de sa mère, Anna a senti que la vie lui était enfin donnée entièrement, qu'une intimité nouvelle s'ouvrait en elle, une parole portée par sa voix véritable s'enracinait. Elle a cessé d'avoir peur de ce vide qui surgissait de nulle part, impossible à nommer. Un jour, la courbe des vents s'accentue et tout ce qui a disparu peu à peu le long des ans reparaît. Anna ne pouvait rendre sa mère heureuse. Sa présence n'a rien effacé. Elle ne pouvait combler l'absence de l'être qui a manqué à chacun des jours, avec qui elle a sombré une nuit de printemps 1949, comme lui-même avait glissé dans l'obscurité avec son père et sa mère, une nuit de printemps 1914. D'une vie à une autre, il n'y a pas de fin. Nous dénouons, nous réparons ce que nous pouvons. Anna ferme les yeux. Elle ne voit plus la maison rouge et le jardin de l'enfant qu'elle a été, mais un océan bleu, et du fond de cet océan, elle se met à remonter à la surface. Elle croit reconnaître le paradis de Tintoret, ce tableau qui l'avait tant saisi quand elle l'avait vu à Venise, alors qu'elle remonte lentement à la surface de sa vie.
Avouez que c'est magnifique. La voix d'Hélène Dorion lisant les mots d'Hélène Dorion, extrait de « Pas même le bruit d'un fleuve » qui malheureusement s'est très très peu vendu en livre audio. Vous savez, c'est pour ça qu'il est important, et puis oui, je vais le dire, de soutenir cette émission des livres pleins les oreilles, pas pour moi, mais pour le livre audio. Cette émission que vous écoutez peut-être maintenant en balado ou encore via Canal M, qui l'a produit. Vous savez que c'est la seule à faire état des parutions audio ici et ailleurs dans toute la francophonie. Alors je trouve important que si vous pouvez, s'il vous plaît, partagez l'info. Deux livres audio maintenant à partir d'une histoire vraie. D'abord, Peter Pan, ou Peter Pan, comme on dit en France, comme vous voulez. Peu importe de toute façon. Bien sûr que ça sort dans la littérature jeunesse. C'est une nouveauté chez Gallimard. C'est lu par toutes sortes de monde et on sait que l'auteur en est James Matthew Barry. Mais savez-vous que cette histoire familiale n'était pas... Mettons que la véritable histoire, ce n'était pas vraiment celle que l'on connaît. Peter Pan est né de la plume de ce monsieur Barry, écrivain né en Écosse en 1860. Lorsqu'il a 7 ans, il perd son grand frère, David, le petit chouchou de la famille. Et à la mort, le jeune Barry prend la place de ce frère disparu. Il imite sa voix, il porte ses vêtements, il réécrit littéralement son histoire. On raconte même qu'il s'était tellement mis dans son personnage que ses médecins ont constaté un arrêt de croissance, comme s'il était bloqué dans la vie qu'il inventait pour David et que c'est cette histoire qui a hanté tous ses textes. L'histoire d'un enfant qui ne veut pas grandir et qui récupère, et ça c'est l'histoire que lui a écrite au départ, il récupère les enfants morts, tombés du berceau ou abandonnés pour les envoyer au pays de Neverland. Ce personnage est loin d'être un enfant de cœur au départ. Il est habité par une haine profonde des adultes. Il y a un adage de Lille qui raconte qu'à chaque respiration, un adulte meurt. Alors Peter Pan s'amuse à respirer fort et à haleter le plus possible pour tuer le maximum d'adultes. Et il tue aussi les enfants perdus. Avouez qu'on est très très loin de la version revue et corrigée de M. Walt Disney. Alors que l'histoire raconte ceci, nous sommes un vendredi soir, les parents de Wendy, Michael et John étant absents, et la nurse Nana, la nurse aussi, est absente, point. Il y a aussi Nana, qui est une chienne Terre-Neuve, qui était attachée dans la cour. La voie était donc libre pour que Peter Pan, le garçon qui refusait de grandir, vienne rechercher son ombre et entraîne les enfants vers le Neverland, vers le pays de nulle part, sur une île enchantée habitée par des peaux rouges, des fées, comme la fée Clochette, on s'en souvient, et des pirates,
commandé par le sinistre capitaine Crochet qui cherche à se venger de Peter Pan. Mais oui, c'est devenu un conte magique, enchanteur et plein d'émotions. Et en voici donc une nouvelle version, mise en voix, nous dit-on chez Gallimard, par des comédiens talentueux. Mais j'ai pas leur nom.
Jamais il n'y eut famille plus simple et plus heureuse jusqu'à l'apparition de Peter Pan. Madame Darling entendit parler de Peter pour la première fois tandis qu'elle s'efforçait de mettre un peu d'ordre dans l'esprit de ses enfants. C'est la coutume, le soir, chez toutes les bonnes mères, une fois leurs petits endormis, d'aller fureter dans leur esprit et d'y faire du rangement pour le lendemain matin, remettant à leur place respective les innombrables choses et notions qui se sont égayées, égarées durant la journée. Si vous pouviez rester éveillé, ce qui bien sûr est impossible, vous surprendriez votre propre mère se livrant à cette activité et vous l'observeriez avec le plus vif intérêt. C'est un peu comme mettre de l'ordre dans un tiroir. Vous la verriez à genoux, je suppose, penchée, souriante, sur tout ce que vous recelez, se demandant où diable vous avez pris cette idée, allant de surprise en surprise, pas toujours agréable, pressant ceci contre sa joue qui lui paraît aussi doux qu'un chaton, rejetant à hâte cela hors de sa vue. Quand vous vous réveillez le matin, le mal et les passions mauvaises avec lesquelles vous vous êtes mis au lit ont été pliés avec soin et relégués au fond de votre esprit. Et par-dessus, bien aérés, sont étalées vos plus jolies pensées, prêtes à vous vêtir. De toutes les îles du rêve, le pays de nulle part est le plus douillet et le plus dense. Non pas étiré en longueur, voyez-vous, avec de fastidieuses distances à parcourir entre deux aventures, mais délicieusement reclus sur lui-même. Quand vous y jouez le jour avec les chaises et les nappes, il n'a rien d'inquiétant. Mais durant les 2 minutes qui précèdent le sommeil, il s'en faut de peu qu'il ne devienne réel. Et voilà pourquoi l'on a inventé les lampes. Parfois, au cours de ses voyages à travers les esprits de ses enfants, Madame Darling découvrait des choses incompréhensibles. Et la plus déroutante d'entre elles était le mot « Peter ». Elle ne connaissait aucun Peter, et pourtant, il était bien là, dans l'esprit de John et de Michael, et commençait à apparaître en gribouillis dans celui de Wendy. Ce nom s'inscrivait en lettres plus grosses que celles de tous les autres mots, et Madame Darling, en le considérant, lui trouva une allure effrontée.
Oui, il est plutôt effronté.
Mais qui est-ce donc, mon petit chou ?
C'est Peter Pan, tu sais bien, maman.
Tout d'abord, Madame Darling ne comprit pas, mais après avoir fait un plongeon en arrière dans son enfance, elle se souvint d'un certain Peter Pan, qui, disait-on, vivait avec les fées. D'étranges histoires circulaient à son sujet. On racontait par exemple que lorsque des enfants mouraient, il leur tenait compagnie pendant une partie du voyage pour leur éviter d'avoir trop peur. Elle avait cru alors à son existence, mais maintenant qu'elle était mariée et raisonnable, elle doutait fort de sa réalité.
D'ailleurs, il a dû beaucoup grandir depuis.
Oh non, il n'a pas grandi. Il a tout juste ma taille.
Elle voulait dire par là qu'il était semblable à elle de corps comme d'esprit. Comment le savait-elle ? Elle l'ignorait. Mais c'était ainsi. Madame Darling consulta Monsieur Darling, mais il eut un sourire dédaigneux.
Écoute-moi bien, ce sont là des balivernes que Nana leur a fourrées dans la tête. Des idées de chien tout bonnement. Ne t'en mêle plus et ces sornettes fondront comme neige au soleil.
Mais elles ne fondirent pas. Et bientôt, le pétulant personnage allait causer à Madame Darling un sérieux choc. Un certain soir, les trois petits se trouvaient couchés comme d'habitude. C'était le jour de sortie de Nana et Madame Darling leur avait donné leur bain et leur avait chanté les berceuses jusqu'à ce qu'ils lui eussent tour à tour lâché la main pour sombrer dans le royaume du sommeil. Elle alla s'asseoir près du feu avec son fil et ses aiguilles. Elle cousait pour Michael qui, à son anniversaire, allait porter sa première chemise. Cependant, avec la chaleur du feu, la pénombre de la nurserie qu'éclairait seulement 3 veilleuses, le tissu glissa des mains de Madame Darling sur ses genoux. Puis, avec beaucoup de grâce, sa tête s'inclina. Elle s'était endormie. Voyez-les tous les quatre. Wendy et Michael là-bas, John ici, et leur mère près de la cheminée.
Voilà, extrait, comme ça a été fait en France, hein, vous avez remarqué, le petit garçon il dit, la petite fille c'est Peter Pan. Mais bon, ici c'est Peter Pan. Une autre histoire vraie qui en ce moment se retrouve d'ailleurs sur nos écrans, enfin on dit qu'au départ ça partirait d'une histoire vraie, d'un fait divers vrai, le comte de Monte Cristo. Je vais vous en reparler, moi je suis allée voir le film pas plus tard qu'hier, alors je pourrais vous en toucher un petit mot, mais en attendant, quelle est cette histoire? Le comte de Monte Cristo, c'est une histoire qui est parue en 1844 dans le journal des débats, mais ça c'est vrai ce que je vous dis, il y avait vraiment un journal qui s'appelait le journal des débats et cette histoire est parue en roman feuilleton et on y voit, on y trouve... On y reconnaît un jeune et fringant prometteur et prometteur marin marseillais du nom d'Edmond Dantès qui est trahi par des amis qui en fait jalousent sa réussite. Il est enfermé au château d'If, au large de Marseille, pour bonapartisme, on est en 1814. Notre héros restera là 14 longues années dans la tristement célèbre forteresse. Là, il va faire la connaissance de l'abbé Faria, prêtre érudit, qui va l'instruire de tout son savoir et lui donner une carte au trésor. Edmond s'évade, trouve le trésor et, riche à millions, devient le fascinant comte de Monte Cristo, qui, l'un après l'autre et impitoyablement, va se venger des hommes qui lui ont tout pris. Alors, l'histoire, bien sûr, a été romancée par Alexandre Dumas, celui, oui, le même que celui qui a écrit les Trois Mousquetaires, mais il n'empêche qu'il y aurait quand même du vrai, le comte de Monte Cristo aurait véritablement vécu. Alors, le film qu'on peut voir en ce moment sur nos écrans est celui d'Alexandre de la Patellière, qui d'ailleurs aussi avait réalisé la dernière mouture des Trois Mousquetaires. Et le héros est interprété par Pierre Ninet, qui n'est plus un total inconnu du public. Peut-être qu'en 2014, vous l'aviez vu briller dans le rôle de Yves Saint-Laurent. Et il y a eu aussi l'excellent film que j'adore, qui s'appelle Franz, ou encore La promesse de l'aube. C'est la première fois qu'il prête ses traits à un héros d'aventure et de l'envergure de M. Edmond Dantès, futur comte de Monte Cristo. Alors, sur la musique du film de 2024, signé Jérôme Robotier, un film, une musique... En tout cas, qui est tout le temps là et ça me fatigue, que je vous propose un extrait du livre audio du comte de Monte Cristo, tel que revu et relu en audio, et qui vient de paraître chez Audiolib, à la narration Franck de Smet.
« Eh bien, mon cher Dantès, êtes-vous libre ?» demanda l'armateur. « Excusez-moi, monsieur Morel, mais je dois ma première visite à mon père. »«
C'est juste. Je sais que vous êtes bon fils. Eh bien, après cette première visite, nous comptons sur vous. »«
Excusez-moi encore, monsieur Morel, mais j'en ai une seconde qui ne me tient pas moins au cœur. »«
Ah, c'est vrai. J'oubliais qu'il y a au Catalan quelqu'un qui doit vous attendre avec non moins d'impatience. C'est la belle Mercedes. »
« Alors vous permettez ?» dit le jeune homme en saluant.
« Le capitaine Leclerc ne vous a pas, en mourant, donné une lettre pour moi ?»«
Il lui eût été impossible d'écrire, monsieur. Mais cela me rappelle que j'aurai un congé de 15 jours à vous demander. »«
Pour vous marier ?»«
D'abord, puis pour aller à Paris. »«
Bon, vous prendrez le temps que vous voudrez, Dantès. Seulement, dans 3 mois, il faudra que vous soyez là. »« Le pharaon, » continua l'armateur en frappant sur l'épaule du jeune marin, ne pourrait pas repartir sans son capitaine.
Oh, monsieur Morel, s'écria le jeune marin, saisissant les mains de l'armateur. Je vous remercie, au nom de mon père et de Mercedes. L'armateur, en souriant, le vit se perdre au milieu de la foule bariolée. Derrière lui, Danglars suivait comme lui le jeune marin du regard. Seulement, il y avait une grande différence dans l'expression de ce double regard qui suivait le même homme. Chapitre 2. Le père et le fils. La nouvelle de l'arrivée du pharaon n'était pas encore parvenue au père de Dantès, qui s'occupait de quelques capucines qui montaient en grimpant le long du treillage de sa fenêtre. Tout à coup, il se sentit prendre à bras le corps et une voix bien connue s'écria derrière lui « Mon père, mon bon père !» Le vieillard jeta un cri et se retourna. « Eh bien !» Voyons, souris-moi, au lieu de me regarder comme tu le fais, avec des yeux égarés. Je reviens et nous allons être heureux. Ah, tant mieux, garçon, reprit le vieillard. Voyons, conte-moi ton bonheur. Le brave capitaine Leclerc est mort, et il est probable que, par la protection de M. Morel, je vais avoir sa place. Comprenez-vous, mon père, capitaine à 20 ans, avec 100 louis d'appointement et une part dans les bénéfices. N'est-ce pas plus que ne pouvait vraiment l'espérer un pauvre matelot comme moi? Aussi, je veux que du premier argent que je toucherai, vous ayez une petite maison avec un jardin pour planter vos clématites, vos capucines et vos chèvrefeuilles. Mais qu'as-tu donc, père? On dirait que tu te trouves mal.
Ah là là, et il ne reverra jamais son père, il ne reverra jamais Mercedes, puisqu'il sera enfermé pendant 14 ans à If, à la forteresse d'If. Bon, alors voilà, j'ai vu le bouquin, j'ai vu le film, j'ai lu aussi le bouquin il y a fort longtemps, mais alors le film avec Pierre Ninet, bon, Ninet, génial, vraiment, il endosse ce rôle-là, ces rôles-là, puisqu'il change de visage assez régulièrement, enfin en tout cas, si vous voulez comprendre, vous irez voir le bouquin, mais au niveau des films, et des comédiennes, j'ai trouvé que ça faisait dur un petit peu. Au niveau décor, costume, les images, la lumière, tout ça, c'est absolument fantastique. Rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller passer 3 heures dans une salle de cinéma, vraiment. Oui, ça dure 3 heures. Et justement, parlant de ça, il y a au moins 40 minutes de trop. Moi, j'aurais gommé énormément de choses là-dedans. Ça aurait donné plus de vie et plus de rythme. C'est quand même terrible qu'un film qui est vendu comme un film à grand déploiement manque d'action, si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez, ça me fait penser à un opéra de Wagner. C'est magnifique, les opéras de Wagner. Mais alors, entre deux, ça peut sembler un peu long, quoi, voyez-vous. Eh bien, ça m'a fait la même chose avec ce conte de Monte Cristo, très bien joué, mais une réalisation pas certaine de Monsieur Alexandre de la Patellière. Voilà, je me permets d'être critique d'un film parce que mon émission ne porte pas sur les films. Je n'ai jamais fait de critique sur les livres. Je trouve que c'est pas bien. Je veux faire la promotion des livres audio. Voilà. On s'est compris, alors ne m'écrivez pas, ne m'abreuvez pas d'injures en me disant « Mais alors, pour qui il se prend, elle, donc ?» Bah oui. Je suis Clotilde Sey, ça me fait plaisir de réaliser et d'animer pour vous l'émission des livres plein les oreilles qui se consacre aux livres audio. Et bien, restez là. Seconde partie de cette émission des livres plein les oreilles, ce sujet d'abord. On entend souvent dire que c'est en voiture que le livre audio est le plus souvent consommé. Le saviez-vous? Non? Eh bien voilà, maintenant, vous le saviez. Mais, mes amis, au secours, il paraît que certains livres audio sont à déconseiller fortement quand on est au volant. Alors moi, je vais vous en proposer 2 parmi la dizaine qui nous est citée dans un article dont je vais vous lire quelques bribes, bien sûr, avec des extraits. Eh oui. Et puis, des nouveautés, celle de Mélissa Dacosta, qui s'impose encore une fois comme une des autrices les plus lues des deux côtés de l'Atlantique, et une autre nouveauté en audio, signée cette fois par Carole Martinez, dont j'ai beaucoup de livres d'ailleurs. J'ai vu qu'il y avait énormément de livres qui sont d'elle en audio et je n'en ai pas encore lu un seul. Oh, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas avoir tout lu, mais j'ai envie de m'intéresser à cette Carole Martinez. D'ailleurs, je ferai un petit spécial sur elle, un de ces jours, à l'émission « Des livres plein les oreilles ». Alors oui, exit, hein, le temps des longues playlists, vous savez, de ces musiques qu'on faisait en route numéro 1, en voyage numéro 2, en route numéro 3. C'est fou parce que c'est pas si vieux, mais beaucoup d'entre vous ont maintenant remplacé ça par des livres audio. Le constat n'étonnera personne, hein, il en a été question dans la première partie de cette émission. Le marché du livre audio connaît une croissance avec la perspective de ses 13 milliards de chiffres d'affaires d'ici à 6 ans. C'est selon les analystes de l'Association américaine des éditeurs audio. Donc là, on parle du marché états-unien. Vous me suivez, on ne parle pas du marché québécois, je vous dis, dans, je vous ai déjà dit tantôt dans quel, pas le gouffre, mais marasme, un petit peu, on se retrouve en ce moment. Aux États-Unis, 149 millions d'Américains auraient déjà tenté l'expérience. Ça représente 52% de la population. On est loin de ça. Je pense qu'on est très loin de 4,9 millions de personnes qui auraient déjà tenté du livre audio, si j'ose m'exprimer ainsi. Même constat au Royaume-Uni, où les téléchargements ont augmenté de 17% entre 2022 et 2023. En 5 ans, les revenus des livres audio au Royaume-Uni ont plus que doublé, soulignant leur importance croissante dans l'industrie de l'édition. Au Québec, je n'y reviendrai pas, on n'en est pas là du tout, mais à la lumière de tout ça, parce qu'en France, c'est pareil aussi, les chiffres le prouvent. Il ne faut pas qu'on lâche au Québec, il ne faut pas que l'industrie nous lâche, il ne faut pas que les gouvernements nous lâchent. Il y a énormément d'artisans, d'auteurs, d'éditeurs qui peuvent également vivre sur le livre audio. Je ne dis pas que sur le livre audio, mais ça peut être pour tout le monde une source de revenus, notamment pour tous les artisans qui travaillent autour de cette autre façon de lire. Voilà, je le dis, je le répète et je le redirai encore parce que c'est important. Voilà. Alors, la recherche, meilleur livre audio pour les voyages en voiture, imaginez, ça a été fait. On a noté, voilà, sur Google, 275 fois de plus effectués au dernier trimestre qu'à l'accoutumée. Ça veut dire les gens qui ont fait une recherche sur Google le mois dernier, meilleur livre audio pour voyage en voiture. 275 de plus que le mois d'avant. C'est très symptomatique, ça. Et pourtant, la romance, notamment, est pointée du doigt. On va en effet s'amuser de constater que les romans sentimentaux dominent la liste établie des ouvrages dangereux à écouter en voiture. Et puis, sinon, il y a une dizaine de titres, tous en anglais, pas forcément lus en français, mais j'en ai retenu deux qu'on retrouve en français, notamment « Le guide du voyageur galactique » de Douglas Adams. Un titre qui ne manque pas d'humour, il s'agit d'un Britannique réduit après la destruction de sa maison à faire de l'autostop intersidéral. Mais comment garder tout son flegme quand on est Britannique et quand on apprend dans la même journée que sa maison va être abattue dans la minute pour laisser place à une déviation d'autoroute, que la Terre va être détruite d'ici 2 minutes se trouvant, coïncidence malheureuse, sur le tracé d'une future voie express intergalactique, que son meilleur ami, certes délicieusement décalé, est en fait un astrostoppeur natif de Betelgeuse et s'apprête à vous entraîner aux confins de la galaxie, pas de panique, car Arthur Dent, un anglais extraordinairement moyen, pourra compter sur le fabuleux guide du voyageur galactique pour l'accompagner dans ses extraordinaires dérapages spatiaux moyennement contrôlés. Si vous êtes au volant, garez-vous. Ça fait partie des livres à ne surtout pas écouter quand on conduit.
Douglas Adams, le guide du voyageur galactique, H2G2, tome 1. Avertissement. Adieu, guide galactique. Bonjour, guide du voyageur galactique. Les anciens lecteurs seront sûrement surpris par le changement de titre. Pas de panique. Il s'agit bien du premier tome de l'édition française de la plus fameuse trilogie en 5 volumes de l'histoire de la littérature. S'ils s'aventurent à le relire, les anciens lecteurs pourront également constater que les noms d'un bon nombre de personnages et de lieux ont été modifiés. Pour autant, ce n'est pas un changement dicté par de simples considérations d'ordre idéologique, mais motivé par la sortie du film adapté de cet ouvrage. Les noms n'ont pas été arbitrairement choisis. En fait, il s'agit dans la grande majorité des cas de la reprise des patronymes originaux. Les nouveaux lecteurs, aussi bien que les puristes, devraient donc s'y retrouver. Enfin, dernière précision qui compte. Quelle est la signification de H2G2 ? Il s'agit tout simplement de l'abréviation du titre original « The Hitchhiker's Guide to the Galaxy ». Et c'est, depuis longtemps déjà, le cri de ralliement de tous les fans du guide du voyageur galactique à travers le monde. Tout là-bas, au fin fond des tréfonds inexplorés et malfamés du bout du bras occidental de la galaxie, traîne un petit soleil jaunâtre et minable. En orbite autour de celui-ci, à la distance approximative de 150 millions de kilomètres, se trouve une petite planète bleu-vert et totalement négligeable, dont les habitants, descendus du singe, sont primitifs, au point de croire encore que les montres à quartz numériques sont une vacheté de chouette idée. Cette planète a, ou plutôt elle avait, un problème, à savoir celui-ci. La plupart de ses habitants étaient malheureux la plupart du temps. Bien des solutions avaient été suggérées, mais la plupart d'entre elles faisaient largement intervenir la mise en circulation de petits bouts de papier vert, chose curieuse, puisqu'en définitive, ce n'étaient pas les bouts de papier vert qui étaient malheureux. Et donc, le problème subsistait. Des tas de gens se sentaient minables et la plupart étaient effectivement misérables, y compris les possesseurs de montres à quartz numériques. Un nombre croissant d'entre eux partageaient cette opinion selon laquelle leur plus grosse erreur aurait été dès le début de descendre des arbres. D'aucuns même affirmaient qu'avec les arbres déjà, et qu'on aurait mieux fait de ne jamais quitter les océans. Et puis, un beau jeudi, près de 2000 ans après qu'on eût cloué un homme sur un arbre, pour avoir dit combien ça pourrait être chouette de se montrer sympa avec les gens pour changer, une fille, assise toute seule dans un petit café de Rick Mansworth, comprit tout soudain ce qui ne tournait pas rond depuis le commencement et vit enfin comment on pouvait faire du monde un endroit agréable et chouette.
Chouette aussi, hein, ce bouquin qui avait donné lieu à un film aussi, comme me l'a gentiment rappelé mon ami Mathieu Tessier, qui est en régie aujourd'hui. C'est un retour à la maison. Bon retour, cher ami. Merci d'être là. Il y avait aussi du Stephen King dans la liste, et pas n'importe lequel des livres de Stephen King, Fairy Tale, autrement dit conte de fées. En français, un génie narratif, le génie narratif de Stephen King, nous dit-on dans la description, atteint de nouveaux sommets et bouscule les frontières de l'imaginaire. Conte de fées, c'est l'histoire magnifique et terrifiante d'un garçon de 17 ans qui hérite de clés ouvrant sur un univers parallèle où le bien affronte le pouvoir écrasant du mal. C'est pour ça que vous aurez tendance à écraser la pédale d'accélérateur. C'est pas bien d'écouter ça en voiture.
Je suis sûr de pouvoir raconter cette histoire. Et je suis sûr que personne n'y croira. Je m'en fiche. La raconter me suffit. Mon problème, je parie que beaucoup d'écrivains ont le même, il n'y a pas que les débutants comme moi, c'est de savoir par où commencer. Tout de suite, j'ai pensé au cabanon, parce que c'est là que mes aventures ont débuté réellement. Mais ensuite, je me suis aperçu que je devrais parler de Monsieur Bodditch d'abord. Et de la manière dont on est devenu proche. Seulement, tout cela ne serait jamais arrivé sans le miracle qu'a vécu mon père. Un miracle très ordinaire, pourrait-on dire. Un miracle que des milliers d'hommes et de femmes ont connu depuis 1935, mais aux yeux d'un gamin, c'était un miracle. Seulement, ce n'est pas le bon choix non plus, car je ne crois pas que mon père aurait eu besoin d'un miracle sans ce foutu pont. Alors, c'est par là que je dois commencer. Par ce foutu pont de Sycamore Street. Et maintenant, en y repensant, je vois clairement un fil qui traverse les années jusqu'à M. Bodditch et au cabanon cadenassé derrière sa vieille maison victorienne délabrée. Mais un fil, ça se brise facilement. Alors non, pas un fil, une chaîne plutôt. Solide. Et moi, J'étais le gamin qui avait les menottes au poignet. 2. La Little Rumpel River coule à l'extrémité nord de Sentry's Rest, Sentry pour les gens du coin. Et jusqu'en 1996, année de ma naissance, un pont de bois l'enjambait. Cette année-là, les inspecteurs du département des transports routiers l'ont examiné et jugé dangereux. Les habitants le savaient depuis 1982, disait mon père. Si le pont était interdit aux véhicules de plus de 5 tonnes, les gens de la ville au volant d'un pick-up chargé préféraient souvent l'éviter et prendre la bretelle de l'autoroute, un sacré détour qui vous faisait perdre du temps. Mon père affirmait qu'on sentait les planches trembler et gronder sous les roues, même en voiture. Ce pont était dangereux, oui, les inspecteurs avaient raison. Mais voilà l'ironie. Si le vieux pont de bois n'avait pas été remplacé par un pont en acier, ma mère serait peut-être toujours de ce monde. La Little Rumpel est une petite rivière, comme son nom l'indique, et la construction du nouveau pont n'a pas duré longtemps. Il a été ouvert à la circulation en avril 1997. Le maire a coupé un ruban, le père Coughlin a béni cette saloperie, et voilà, m'a raconté mon père un soir. Il était complètement saoul. Pour nous, c'était pas vraiment une bénédiction, hein, Charlie? On l'avait baptisé pont Frank Ellsworth, du nom d'un gars d'ici mort au Vietnam. Mais les gens disaient « le pont de Sycamore Street ». C'était une rue joliment pavée de part et d'autre. Mais le pont, lui, 42 mètres de caillebotis en acier, bourdonnait quand les voitures passaient et vrombissait quand un camion l'empruntait. Ce qui était possible maintenant car il était autorisé aux véhicules jusqu'à 27 tonnes. Ce n'était pas assez pour un semi-remorque, mais de toute façon, il n'y en avait jamais dans Sycamore Street. Tous les ans, le conseil municipal parlait de paver le pont et d'ajouter au moins un trottoir, mais tous les ans, il y avait des dépenses plus urgentes apparemment. Je ne crois pas qu'un trottoir aurait sauvé ma mère, mais un dallage peut-être.
La voix de Damien Witeka sur cet extrait de conte de fées de Stephen King. Juste avant, le guide du voyageur galactique H2 G21, c'était la voix de Nicolas Justamont. Jusqu'où peut-on aimer jusqu'à s'oublier? Le nouveau roman de Melissa D'Acosta nous plonge au cœur de l'intimité d'un couple en miettes et affronte, avec une force inouïe, la réalité de l'amour, du désespoir et la soif de vivre malgré les épreuves. Se pourrait-il que ce soit ça, cette bête noire qui remue dans ma poitrine, piétine, déchire, ronge tout autour d'elle avec la férocité d'une hyène, ne me laissant qu'un trou béant dans le cœur et une sécheresse dans la gorge? La culpabilité. Se pourrait-il que ce soit ça, aimer malgré soi, aimer mal, aimer sans savoir pourquoi? Aimer, c'est un peu le sens de « Tenir debout » de Melissa D'Acosta, c'est lu par Jean-Alain Velardo, V-E-L-A-R-D-O. On dit de ce livre qu'il est aussi éprouvant dans « Ouest France ». On dit aussi dans 24 heures que ce livre donne le ton de la rentrée littéraire avec une audacieuse histoire d'amour sur fond de handicap. Extrait de « Tenir debout » de Melissa D'Acosta, lu par Jean-Alain Velardo.
Elle est venue. Elle est là, je crois. Il m'a semblé apercevoir son visage tout près, dans un angle de mon champ de vision. Tout droit, il y a le plafond et la télévision. À gauche, une zone de lumière, probablement une fenêtre. Je ne peux pas tourner la tête. À droite, c'est là qu'est son visage. Il est barbouillé. Je crois qu'elle a pleuré. Elle a l'air fatiguée. Elle est là, je crois. Suis-je en train de rêver? Peut-être. La morphine m'empêche d'émerger, me fait halluciner. Si je le voulais, peut-être pourrais-je tenter de revenir à moi, mais... Fichu, fichu, à quoi bon?
La nuit tombe par la fenêtre. Un ciel bleu noir sans étoiles, sans nuages non plus.
Sur le parking, le balai des voitures s'est calmé. Les visites seront bientôt terminées. Les lampadaires se sont allumés. Au loin, sur le boulevard, les phares des voitures et quelques feux de stop. La circulation semble dense. Tout cela me semble loin, si loin. Ici, je suis à l'abri. 5 heures que je suis là, au chevet de François, immobile sur cette chaise, ma main contre son bras. Je n'ai pas fait un pas, pas songé à aller aux toilettes ou à me passer de l'eau sur le visage dans la minuscule salle de bain de la chambre. J'ai avalé le sandwich jambon-beurre qu'Antoine m'a rapporté. J'ai laissé la tarte au citron meringuée dans son sachet. Je n'ai pas vraiment retrouvé l'appétit. Pas encore. Le petit gobelet de café a refroidi. Je n'y ai pas touché non plus. 5 heures que je suis plongée dans ce drôle d'état second, calme et apaisé. Les pas et le roulement des chariots dans le couloir me bercent. Les bips des machines de François me rassurent. Si je reste ici, ça ira. Je me répète cette phrase en boucle. J'appréhende le moment où on me mettra dehors, où je retrouverai le vent glacial de la fin octobre, les gens, le bruit, l'agitation.
« Vous voulez mettre la télévision ?»
a demandé l'infirmière qui est passée plus tôt.
« Non. »
Je l'ai regardée s'agiter, vérifier l'écran des machines, noter quelque chose sur un calepin, soulever une paupière de François, prendre sa température en lui glissant un thermomètre dans l'oreille et sa tension. Puis elle a décroché une petite poche en plastique située sur le côté du lit. « Qu'est-ce que c'est ?» Je craignais de comprendre. Elle a confirmé mes doutes.
« Une sonde urinaire. Je change les poches. »«
C'est temporaire ?»«
Tout dépendra. »
Je n'ai pas voulu l'interroger davantage. J'ai senti la peur qui revenait, ainsi que des pensées terribles. Incontinent. À 42 ans. Sans l'usage de ses jambes et incontinent. Tant qu'il est ici, ça ira. La phrase est revenue, une ritournelle. Ils prennent soin de lui. Tant qu'il est ici, ça ira. L'infirmière a continué de s'agiter autour du lit, a remis une poche vide. Et les selles, c'est pareil? Bon sang, arrête. J'ai fait le vide dans ma tête, j'ai serré le bras de François avec plus de force. C'est là qu'il m'a semblé le voir cligner des yeux. Brièvement. J'ai cru apercevoir ses pupilles, mais ça n'a duré qu'une paire de secondes. Un temps infime qui m'a fait revenir à l'essentiel. François vivant. Évidemment. Peu importe le reste. Incontinence n'est pas un drame. On peut vivre en fauteuil. J'ai pressé son bras de nouveau, espérant provoquer une autre réaction. Rien.
Je vous allume le néon quand même ?
L'infirmière était sur le point de partir. Le soleil était couché. Bientôt, François et moi serions plongés dans l'obscurité. J'aurais préféré, mais j'ai acquiescé et elle a allumé. Maintenant, j'entends les chariots dans le couloir et les pas du personnel soignant. C'est l'heure de la distribution des repas. Dans un instant, la porte s'ouvrira, venant troubler notre bulle. On m'annoncera que l'heure de fin des visites est arrivée. Alors il faudra affronter le reste du monde, celui qui tourne encore. Les transports en commun bondés, l'avenue de Flandre à pied, mon studio vide et glacial. La solitude. J'ai le souffle coupé rien qu'à y songer. Ici, ça va. Ailleurs, non.
La narration, on a pu entendre dans cet extrait de « Tenir debout » de Mélissa Dacosta, Lauriane Philippe, elle, et Jean-Alain Velardeau, lui. Une autre nouveauté, signée cette fois-ci Carole Martinez, ça s'appelle « Dors ton sommeil de brute ». Le résumé, d'abord, ou du moins celui qu'on nous fournit dans le catalogue. Mais il est très éloquent, alors je vous le lis tel que. Un long hurlement, celui d'une foule d'enfants, secoue la planète. Dans les villes, le cri passe à travers les murs, se faufile dans les canalisations, jaillit sous les planchers, court dans les couloirs des tours, où les familles dorment les unes au-dessus des autres. Le cri se répand dans les rues. Il s'agit là d'un rêve collectif qui court à la vitesse de la rotation terrestre. Il touche tous les enfants du monde à mesure que la nuit avance. Les nuits de la planète seront désormais marquées par l'apparition de désordres nouveaux, comme si les esprits de la nature tentaient de communiquer avec l'humanité à travers les songes des enfants. Eva a fui son mari, elle s'est coupée du monde. Dans l'espace sauvage où elle s'est réfugiée avec sa fille Lucie, elle est déterminée à se battre contre ce qui menace son enfant durant son sommeil, sur une terre qui semble basculer. Comment lutter contre la nuit et les cauchemars d'une fillette ? Dans l'extrait qu'on va entendre, Eva n'a toujours pas accouché de cette petite fille qui l'obsède déjà dans son ventre.
Je goûte la clameur du monde extérieur perçue à travers ma chair. Les vibrations de la ville contre ma peau tambour. Les voix entendues comme derrière une porte. J'avale du liquide amniotique. Je partage les toutes premières sensations de l'intrus dans son sac de peau, la mienne. Dans mon corps bat le cœur d'un autre. Un autre dont je connais le sexe. Ce sera une fille. Les hoquets, les coups de pied, de coude. J'héberge en mon sein un être silencieux et invisible qui se nourrit de moi, me pille, me dévaste. Une inconnue que je suis censée aimer avant même de la mettre au monde. C'était une idée de Pierre d'avoir un enfant. Je n'en ai jamais voulu. J'ai toujours été convaincue qu'être enceinte m'effraierait, que je me sentirais envahie, possédée par ce qui pousserait invisible en moi. J'ai toujours su que je ne saurais pas être mère. Et l'époque ne donne pas envie. Même enceinte, je continue à juger l'inconscience des jeunes parents. J'ai mis moins de temps que je ne le pensais à accepter d'être ainsi occupée. Autour du 5e mois, quelques gouttes de sang dans ma culotte ont suffi à transformer ce parasite en enfant potentiel. La pensée de ne pas arriver à terme m'a soudain rendue l'envahisseur presque attachant. Je me déchirais par le milieu d'ici peu. Rien de plus naturel ni de plus inquiétant. Est-ce que porter la vie me rapproche de la mort ? Je me sais à peine capable de m'occuper de moi-même. Pourtant, je vais enfanter. Et je ne me dépêtrerai plus de ce lien qui se tisse. Je suis piégée. Je ne peux plus abandonner. C'est trop tard. Il va falloir souffrir. Comment ai-je pu me mettre dans cette situation absurde ? Mettre un enfant au monde. Je tente de me rassurer en me disant que je ne vivrai pas d'autre accouchement. Cet enfant sera unique. Pierre et moi n'avons pas prévu de renouveler l'expérience. Tout cela doit être tellement abstrait pour lui. Certes, il vit à mes côtés, il partage mon lit et il a vu mon corps gonflé, mon pauvre corps énorme et chamboulé qu'il ne désire plus et pour lequel il éprouve même un certain dégoût. Mais il est 4h du matin et il ronfle. Je le déteste d'être endormi alors que je veille. Je le déteste de pouvoir s'échapper avec cette facilité. Un sommeil de brute. Mes mollets se durcissent soudain en une double crampe. J'en ai l'habitude. J'en souffre toutes les nuits depuis des mois. Toutes les nuits et parfois, je les provoque pour que cesse cette sensation désagréable dans mes jambes agitées. Je crispe mes muscles jusqu'à la contracture. Je préfère que la douleur arrive tout de suite. Plutôt que de l'attendre trop longtemps. J'entame un mouvement pour m'adosser à la tête du lit. J'étire mes mollets en ramenant la pointe de mes pieds vers mes tibias et soudain mon ventre craque. Je l'entends craquer. Une membrane s'est déchirée en moi, mais étrangement, seuls mes mollets me font souffrir. Je m'immobilise, effrayée par cette sensation tellement singulière, et j'attends, figée dans les ronflements de Pierre. En respirant à peine pour ne rien empirer, je relève mon t-shirt afin d'explorer mon corps à tâtons. Mon abdomen n'est pas fendu, mais lisse et dur sous mes doigts. Ce craquement pourtant je l'ai entendu, ou au moins ressenti. Je ne sais déjà plus. Je me calme un peu et parviens à me redresser davantage. Un liquide tiède coule entre mes cuisses. Du sang ? Est-ce que je baigne dans mon sang tandis que Pierre continue de ronfler ? Est-ce que je me vide comme un pot cassé ?
Et c'est Françoise Gillard qui lisait cet extrait, en fait le livre en entier bien évidemment, qui s'intitule « Dors ton sommeil de brute » de Carole Martinez. Ça a été édité en audio par la collection Écoutez lire, série numérique de chez Gallimard. Et ben voilà, il y en aura plein d'idées encore pour peut-être se glisser quelques livres dans les oreilles. Des contes, le conte de Monte Cristo, Peter Pan, des nouvelles aventures signées, comment elle s'appelle, Madame d'Acosta, dont on attend maintenant toujours les livres. Mélissa, voilà pour son prénom. Bref, écoutez, vous avez l'embarras du choix, vous pouvez réécouter ça quand vous voulez sur le web ou via Canal M ou encore via votre télévision. Je m'appelle Clotilde, pardon. Conseil, je réalise avec beaucoup de plaisir et j'anime cette émission des livres pleins les oreilles qui ne serait pas possible sans la complicité de l'ami Mathieu Tessier. Merci beaucoup à Canal M de continuer de produire cette émission-là. À la semaine prochaine.